Alphonse Allais, Le boomerang, ou Rien n'est mal qui finit bien. Roman, chapitre premier, dans lequel on va voir, à ce tristant spectacle, et sans qu'on aperçoive bien les causes réelles et suffisantes d'un tel désespoir, le jeune porteur d'un des plus vieux noms de France, tenté de mettre fin à son existence individuelle et du même coup à sa race glorieuse, dernier descendant mâle qu'il est d'une de ces lignées dont on pouvait dire sans crainte de s'entendre taxé d'exagération qu'on ne voyait qu'elle aux croisades. Guillaume de la Renforcerie se sentait triste et même incompris. Ah, combien triste et incompris, oh que! Depuis l'instant où Marie-Blanche, la jolie Marie-Blanche Loison, l'avait brusquement quitté par un froid matin de mai. Le mois de mai avait froid aux pieds cette année-là. Détail météorologique qui n'empêcha point Marie-Blanche Loison de courir à d'autres amours. Avec qui, pourquoi, comment? Ces questions qui font partie de l'ancien droit romain, quid ubi, cur, quomodo, quando, se posaient à la cervelle de Guillaume, une cervelle de dernier ordre, assurément, puisqu'elle ne parvenait pas à résoudre ce problème. Mais en cette cervelle d'avant-dernier ordre, car on ne sait jamais, avec ces diables de cervelle, si elles sont réellement au-dessous de tout, à cause des parois crâniennes qui les protègent contre les avides et pénibles investigations des psychologues et des physiologistes, en cette cervelle, dans tous les cas de sous-ordre après la fugue de Marie-Blanche, de la jolie Marie-Blanche Loison, germe à Dieu, c'est quel projet fatal. La solution, et c'est bien d'une solution réellement chimique qu'il s'agit, fut pour notre ami Guillaume de se dissoudre dans le grand tout. Manière élégamment scientifique de vous dire que notre ami Guillaume, de la Renforcerie, résolut de mettre fin à ses jours, et surtout à ses nuits, que tourmentait âpre et se lancinant le souvenir de la chair et de la chair disparue. En d'autres termes, comme disent les concierges trimestriellement, il songea à résilier le bail 3, 6, 9 renouvelable que la nature lui avait signé avec l'existence. Oh, ne me poussez pas trop, car je me sens prêt à vous établir que l'existence est bel et bien la pipelette de la nature, notre archi-grande propriote. Vous ne me poussez pas dans cette voie éminemment philosopharde. Non, bon, alors je continue. En vous disant tout bêtement que cet imbécile, pour une Marie-Blanche disparue, se décidait à perdre la vie. Le suicide, brouh ! L'amour, ce roi des dieux et des hommes, qui a la prétention de fabriquer la vie, se termine souvent par la destruction de cette même vie. L'amour, ah, encore un gaillard, grognez-vous, qui manque étrangement de logique. Bon, vous en fichera de la logique. Tout ça, d'ailleurs, n'est pas de votre compétence. Oui, mais quel genre de suicide? Guillaume de la Renforcerie inventoriait son porte-monnaie plat afin d'y trouver le prix d'un revolver. C'est hors de prix, les revolvers. Oh, il y en a parbleu de pas trop cher, mais ils ratent. L'exigu porte-monnaie du désespéré ne contenait pas la somme indispensable à l'achat de divers instruments, fusils, espingoles, yatagans, cimeters, stylets ou navajas, capables de déterminer en lui le traumatisme fatal. Même pas le prix d'un boisseau de charbon, ni celui d'une corde. Oh, d'une corde, bien entendu, digne de ce nom. Les bonnes cordes à pendre se fabriquent à Londres. Vous voyez d'ici quel prix étant payé le fret et la douane, elles peuvent atteindre. Non, le porte-monnaie de Guillaume ne contenait pas de telles sommes. D'autant plus, oh, j'aime mieux vous le dire tout de suite, que Guillaume de la Renforcerie, jeune homme affranchi de tout principe bourgeois, ne possédait pas l'ombre du plus mince porte-monnaie. Restait pour lui la seule ressource des suicides gratis. Tramways ardents et furieux, automobiles égarés, chemins de fer. Cela est bon pour des gens combatifs dans le genre de Don Quichotte, qui n'hésitait pas à scolter avec tous les moulins à vent de son pays, sport aujourd'hui risible. Guillaume de la renforcerie passa en revue, parmi les suicides, la descente rapide, verticale et aérienne du haut de la colonne Vendôme ou de la tour Eiffel. Mais l'accès de cette dernière n'est pas gratuit et l'ascension de la colonne est désormais interdite. Restait le pont des Buttes-Chaumont, du haut duquel on peut passer rapidement, dans le nirvana des bouddhistes, par un simple enjambement. Guillaume, poète à ses heures, dans le genre classique, se refusa à accepter l'enjambement, quoique, enfin, des fois. Il n'y avait donc que la Seine, la bonne baignade finale. Un temps superbe, où je ne sais plus combien de degrés au-dessus de zéro, et pas de vent. Guillaume alluma sa cigarette, la dernière, dans un bureau de tabac dont la caissière lui parut séduisante au possible, avec un de ces petits airs aguicheurs, comme il s'en rencontre fréquemment au sein des débits. Inébranlable dans sa résolution, Guillaume descendit vers le grand fleuve parisien que le Sahara nous envie. Il arriva lentement au Pont-Neuf, salua poliment Henri IV, son aïeul peut-être, sait-on jamais, avec ce vert galant, et descendit sur le quai. Là, il avisa un pêcheur à la ligne, qui, coiffé d'un vaste feutre, somnolait en regardant son bouchon de liège qui frétillait dans les remous. Le spectacle de cet homme paisible, en proie à l'ardente passion de la pêche, intéressa notre pauvre ami. Avant d'aller répandre son moi dans le liquide de la Seine, il éprouva la légitime curiosité de savoir avec quel genre de poisson il allait bientôt entrer en contact. Il s'assit donc sur le quai auprès du pêcheur à la ligne. Et il attendit. Oh, il attendit longtemps, 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, j'abrège, puis 1 heure, enfin 1 heure un quart. L'homme au feutre ne bougeait pas. Sa main droite tenait le roseau immobile, le fil formait avec le niveau de l'eau un angle dans les 40 à 45 degrés. Le bouchon seul frétillait. Le visage de l'homme continuait à se dissimuler sous le feutre à large bord. Il semblait corpulent, l'homme, et dans toute la force de l'âge. Une houppelande d'une étoffe passée de mode l'enveloppait. Un vaste panier, affreusement vide, un immense panier, se tenait près de lui. Citons également une boîte d'asticots et un de ces vastes couteaux moyennant lesquels on vide le poisson quand le cas s'en présente. Guillaume s'intéressait à cet individu, qui lui semblait privé de mouvement, ainsi que le sont les cariatides des monuments et les statues de la place de la Concorde et autres objets d'art dus aux ciseaux de nos plus grands artistes. Pendant son heure et demie d'attente, oh, car il s'est bien passé un quart d'heure depuis notre dernier chronométrage, Guillaume, peu à peu, se ressaisissait, reprenait goût à la vie. Le problème insoluble que lui offrait cet être immobile charmait déjà son esprit de poète investigateur et symboliste, quoique classique. Il y avait en lui l'âme d'un ancien reporter qui aurait quelque tendance à faire un peu de police pour égayer ses loisirs. Or, précisément parce que son existence s'était écoulée, regrettons-le pour la plus grande partie, dans l'inaction, Guillaume ne s'était jamais connu de loisirs réels, excepté à cette heure suprême où, avant de mourir, il avait tout le temps. À force d'investiguer, il remarqua qu'un journal froissé gisait dans le fond du panier vide. Ce journal n'était pas un journal français, ni anglais, ni espagnol, ni belge, ni suburbain, ni italien, ni allemand, ni russe. Guillaume cherchait vainement à quelle langue ressortissait l'écriture imprimée qui jonchait le panier vide. Du japonais ? Il le crut un instant, puis par un effort de sa cervelle qui, quoique d'avant-dernier ordre, possédait encore quelques notions ethnologiques, il aboutit à cette conclusion que ce journal était un journal néerlandais ou, pour parler comme dans le temps, une gazette de Hollande. Et il reconnut cette chose à un détail insignifiant, peut-être pour un esprit superficiel, mais capital aux yeux du véritable investigateur. Sur ce que nous autres, avisés publicistes, nous appelons la manchette, Guillaume avait déchiffré ce vocable Amsterdam. Par suite d'une rare mémoire que l'exercice de la versification avait accrue, Guillaume se souvint que, tout petit, on lui avait appris la géographie européenne et qu'Amsterdam était une ville de la Hollande. D'une association d'idées fort naturelles et sans hésiter, il conclut « Oh mon Dieu, c'est bien simple !» que ce pêcheur à la ligne était un marchand de fromage de Hollande. On nomme aussi ces fromages de Hollande « tête de mort », appellation qui parfois chez les âmes timorées rafraîchit la vieille gaieté de nos desserts. Dans son état comateux de suicidable, oh, il y a des suicidables comme il y a des contribuables, c'est d'ailleurs un peu la même chose à bien réfléchir, il trouvait assez piquante cette rencontre d'un probable marchand de tête de mort au moment où lui-même s'apprêtait, mais n'insistons pas, sur ce point macabre et douloureux. Antithèse comme on en trouve n'importe où, sous le pas d'un cheval par exemple, l'idée de cette tête de mort qui essayait de pêcher à la ligne des poissons dans la Seine remit une gaieté de bon aloi dans le cœur de Guillaume. Mais il n'est de si belles contemplations qui ne doivent prendre terme, surtout quand on est forcé d'exécuter un plongeon suprême. Et à un moment donné, vous remarquerez que les moments sont toujours donnés. C'est curieux, on ne les prête pas. On les donne. Seulement, monsieur, s'adressa d'une voix forte Guillaume de la Renforcerie à la tête de mort, monsieur, veuillez déranger votre système piscatoire, car je vais me jeter à l'eau. L'homme au feutre, sans que son bras droit bougeât d'un centimètre, ni sa gaule, ni son fil, ni son bouchon, tourna lentement sa face large basanée de Hollandais. Cette face basanée était poilue. Un nez flamboyait au centre et du coin de la bouche, une pipe énorme émergeait. Mais c'était une pipe éteinte, peut-être même une pipe vide. Les yeux de la tête de mort, des yeux bleus faïence, regardèrent Guillaume en chien de même substance. Puis, toujours lentement, cette face se retourna vers le fleuve. Guillaume n'aperçut plus que la coiffe et les ailes de l'immense feutre noir, semblable à un parapluie. Le tout redevenait immobile dans le silence. Un silence religieux, mais quel silence! Grâce à un peu de finesse dans lui, on eût pu percevoir, venant de là-bas, du palais Mazarin, le bruit léger que produit la moulure du dictionnaire de l'Académie sur nos vieilles et glorieuses syllabes nationales. Guillaume commençait à perdre patience. Alors, au lieu de prendre, comme il venait de le faire, une voix forte et basse pour convaincre cet obstiné pêcheur, il emprunta un ton suraigu et glapi. « Monsieur, vous dis-je, écartez vos engins capteurs de poissons et laissez-moi la place libre afin que je me noie. » Le feutre se tourna de nouveau d'une façon automatique vers notre jeune désespéré. Le visage basané, les yeux bleus faïence, la barbe, la pipe éteinte, peut-être même vide, tout, Guillaume revit tout. Et de ce spectacle, une voix sortit, agrémentée d'un accent étranger sur lequel nous aurons à revenir plus tard. « Faut prenez le pipe tout de suite, et pourrait le tabac dans le poche-tête. Obéissant, médusé, Guillaume prit la pipe, et le visage de l'étranger se tourna vers le fleuve de nouveau. Et Guillaume, dans une sorte d'inconscience tragique, étant donné son désir absurde de se plonger dans la Seine puante, plongea sa main dans la poche du présumé et très présumable Hollandais et en tira du tabac. Ce tabac était enveloppé dans un billet de 1 000 francs. Mais ce billet de 1 000 francs n'était pas un vrai billet de 1 000 francs. Hâtons-nous de dire que ce n'était pas non plus un vulgaire et nauséabond billet de la Sainte Farce. Non, non, c'était un billet hollandais de 50 florins. N'essayons pas même de dépeindre la stupeur de notre ami Guillaume à ce spectacle. Sidéré, extraordinarisé, palpitant, il boit la pipe de l'étranger, une énorme pipe de faïence pourvue d'un couvercle d'argent finement ouvragé. Comme il remettait le tabac et sa fastueuse enveloppe de papier soie dans la poche de droite, l'homme tourna de nouveau vers Guillaume son visage et dit: Maintenant, tonne! Il ouvrit une bouche et montra ses dents redoutables qui happèrent le tuyau avec la gaie morsure du joyeux crocodile. Oui, on parle toujours en effet des larmes du crocodile. Le temps est venu de proclamer la gaieté, parfois indécente, l'irrésistible jovialité de ce saurien qui d'habitude ne fume que le Nil. Notre étranger possédait, sous des sourcils touffus et une paupière plissée comme un vieil éventail, un regard, nous avons plus haut signalé ce détail, bleu, où scintillait un rire de brave et sans façon bourgarçonnisme. « À toutes les allumettes ?» demanda-t-il toujours avec le même accent. Guillaume, qui avait songé à s'empoisonner par le phosphore, possédait une boîte d'allumettes. Insuffisantes à donner la mort, ces allumettes, amorphes et anciennement suédoises, étaient susceptibles d'allumer une pipe. Ainsi fut fait. Guillaume appliqua l'enflammée tout de bois sur le fourneau de faïence. La bouche du joyeux crocodile hollandais fit quelques aspirations. Et voilà notre pipe allumée. Alors, de rechef, voulez-vous, monsieur, écarter votre ligne pour que je me précipite dans ce fleuve boueux et que j'y trouve l'oubli définitif? Le crocodile, ex-tête de mort, se leva d'un bond, jeta sa ligne sur le sol et, interposant sa carrure gigantesque entre le fleuve et Guillaume, déclara: Ne t'informe pas tes bêtises, je suis le profitas. Viens-tu chenner avec moi? Chapitre deuxième, où l'on verra de quelle façon Guillaume de la Renforcerie et Marie-Blanche Louison se rencontrèrent et se perdirent en moins de temps ou à peu près qu'il n'en faut pour l'écrire, telles deux épaves flottant sur la mer immense et que la même vague entrechoque puis sépare à tout jamais, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas exact de nos héros, appelés bientôt, Dieu merci, à se rencontrer. Maintenant que vous avez pris contact avec Guillaume de la Renforcerie et que le nom de Marie-Blanche Loison ne vous est plus étranger, ainsi qu'il en est de la situation morale du premier et de la beauté de la seconde, l'heure est venue, ce nous semble, d'apprendre comment ces deux êtres intéressants en vinrent à croiser les deux esquifs de leurs existences sur cet océan qu'est Paris la grande ville. Ce fut par un après-midi de fort brouillard qu'il la rencontra. Éternelle histoire, le coup de foudre. D'un rouleau qu'elle tenait à la main, s'échappèrent des papiers sur lesquels s'étalait une grosse écriture régulière. Lui, qui la suivait depuis quelques hectomètres, se précipita, ramassa les papiers et, Mademoiselle, dit-il gracieusement, son chapeau à la main, vous perdez quelque chose. Oh, merci, monsieur. Oh, de rien, mademoiselle. Si, monsieur, au contraire, vous venez de me sauver 100 sous d'amende. Oh, bah. Oh, c'est que nous avons un régisseur qui ne blague pas. La glace était rompue. Sans se faire outrageusement prier, la jeune personne confia ses noms et prénoms. Marie-Blanche Loison. Confidence superfétatoire, d'ailleurs, tant ses noms et prénoms émanaient en quelque sorte de toute sa personne. Albe à immaculation de Marie-Blanche, candeur de Loison. Avez-vous remarqué comme certains noms, prénoms, collent, si j'ose dire, avec les personnalités qui les détiennent? Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Monsieur, je m'appelle Valentine. Oh, j'aurais parié. On est de bonne foi, certes, en poussant cette exclamation, mais il ne sied pas d'exagérer ce sens de la divination. Il y a beaucoup de ces malins qui l'auraient parié. Et cette dame rousse, un peu forte, leur brûlez-vous le pourpoint, assise à côté du vieux monsieur, comment s'appelle-t-elle? 99 fois sur 100, ils épuiseront tout le catalogue du paradis avant de découvrir que cette dame rousse, un peu forte, s'appelle Louise, tout bêtement. Il se peut donc que, dans l'esprit de notre ami Guillaume de la Renforcerie, un phénomène d'interversion mentale, favorisé par son trouble, se soit ainsi produit, et qu'en entendant pour la première fois ces si gracieuses syllabes accouplées « Marie-Blanche Loison », il est éprouvé la sensation précise de les connaître avant la minute où elles furent énoncées. L'étude, mesdames et messieurs, des phénomènes psychiques. Mais j'entends dans l'honorable assistance s'élever d'irrévérencieux murmures. Oh, la barbe, la jambe! Rentrons donc, chers amis, en plein cœur du sujet, comme dit Copé. Marie-Blanche Loison. Guillaume marchait aux côtés de Marie-Blanche, et bien que la timidité n'entrât que pour une infime proportion dans la formule de sa complexion, il ne savait trop que dire, il ne savait même pas assez. C'est ainsi qu'ils arrivèrent jusqu'au bureau d'omnibus qui se trouve tout près de la porte Saint-Martin. Marie-Blanche prit un fragment ovale de carton vert pourvu du chiffre 87, qui lui conférait, quand son tour en serait venu, le droit de prendre place dans l'omnibus qui se dirige vers l'église de la Madeleine. Guillaume obtint dans le même ordre d'idées le numéro 88. Guillaume de la Renforcerie n'avait à proprement parler rien qu'il appela plutôt du côté de la Madeleine que du côté de la Bastille, ni d'ailleurs d'aucun autre côté, mais l'idée de se voir arracher brusquement au charme naissant, mais irrésistible déjà de sa nouvelle amie, oh, plutôt la mort. Guillaume met, comme il en fournit un autant détraqué, un de ces êtres qui, dès que les choses ne tournent pas à leur gré, songent tout de suite au trépas, sauf plus tard à découvrir quelque expédient moins vif. Hélas, les choses ne tournèrent pas, cette fois, au gré du jeune homme. Les voyageurs pour la Madeleine, 2 places à l'intérieur, 3 à l'impériale. Alors, 83, 84, 85, 86, 87, complet. Ding, 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 roulez. Complet. La dernière place disponible se trouvait justement occupée par Marie-Blanche Loison, laquelle n'eut garde de partir sans avoir décoché le plus gracieux et le plus reconnaissant de ses sourires à son compagnon de quelques minutes. Et la lourde voiture s'enfonça dans le brouillard, éperdument, laissant sur le trottoir, tête et cœur comme subitement vidés par une puissante et brusque pompe aspirante, notre pauvre ami Guillaume de la Renonforcerie, Marie-Blanche Loison, le très doux écho de ces trois noms, avec l'évanescente vision de quelque chose de blond et de rose, c'est tout ce qui lui demeurait de l'aventure. Courir après l'omnibus, fréter un sapin, deux solutions également séduisantes et réalisables, auxquelles notre abourdi ne songea même pas, tant à cette minute le pauvre garçon était tout écroulé. Puis peu à peu, le sens de la vie se réinstalla chez lui. Mais trop tard, l'omnibus doit être loin s'il court encore, comme on dit dans le peuple. Lentement et comme magnétiquement, Guillaume prit la direction de la Madeleine. Espérait-il la rencontrer de nouveau? Peut-être. Mais à coup sûr, il la reverrait. Il se jurait de la revoir. Et quand on s'appelle Guillaume de la Renforcerie, qu'on a juré quelque chose, fût-ce à soi-même, on tient sa parole. Le calme renaissait dans ses esprits. « On n'est pas des bœufs !» essayait-il de s'inculquer courageusement. « On n'est pas des bœufs !»« Oui, mais comment la retrouver ?»« Mon Dieu, mais suis-je bête ?» éclata-t-il. Une colonne Maurice lui tendait les bras. Littéralement, il s'y rua. Comédie française. Ce soir, l'énigme. Mademoiselle Barthet, Mademoiselle Grandez, etc., etc. Oh zut, pas la moindre Marie-Blanche Loison. Odéon, ce soir Attali, Mademoiselle Chose, Madame Machin, etc., etc. Oh zut, pas la moindre Marie-Blanche Loison. Théâtre Sarah Bernhardt, ce soir Théroigne de Méricourt, Madame Sarah Bernhardt, Mesdemoiselles une telle, telle autre, etc., etc. Mon Dieu, comme il y en a des demoiselles dans l'ère héroïne de Mérignoux. Ce sacré polaire vieux, va, mais zut, pas la moindre Marie-Blanche Loison. Toute la colonne Maurice y passa, et pas la moindre Marie-Blanche Loison. Guillaume retomba dans un vif abattement. Pourtant, elle appartenait à quelque théâtre, puisque le manuscrit ramassé, c'était, il avait eu le temps de remarquer, la copie d'un rôle. Et puis, elle lui avait parlé de son régisseur qui ne blaguait pas. Si elle jouait sous un autre nom que celui-là, si délicieux pourtant, de Marie-Blanche Loison, peut-être aussi faisait-elle partie, ô espoir, de la troupe d'un de ces petits théâtres à côté, comme on dit, que leur faible budget n'autorise pas à garnir tous les jours la périphérie de ces bien parisiens cylindres programmes, mais dont il est facile de faire en peu de temps la complète exploration. La sombre nuit que passa Guillaume de la Renforcerie connut un réveil radieux. Oh, on dit qu'il y a un bon Dieu pour les amoureux, ainsi qu'il en existe un autre pour les pochards. Le même peut-être, car quoi de plus comparable à l'ivresse que l'amour, mais rien n'est plus vrai. Dans son lit, ouvrant le journal que venait de lui apporter sa concierge, Guillaume sentit ses yeux comme attirés par un irrésistible aimant vers la rubrique « Écho des coulisses ». Et voici ce qu'il lut. Ce soir, à l'élégant petit théâtre des Folies Carrées, Ivresse, première représentation de Le Pauvre Bougre et Le Bon Génie, féerie néo-contemporaine de M. Alphonse Allais, avec la distribution suivante. Le Pauvre Bougre, M. Mounet-Sully de la Comédie Française en représentation. Le Garçon de Café, M. Frédéric Febvre, ex-sociétaire de la Comédie Française, Le Bon Génie, Mademoiselle Marie-Blanche Loison. Nul doute que la coquette bonbonnière des folles ivresses soit trop petite pour te contenir le tout Paris qui ne manquera pas de s'y venir entasser. Sic. Chapitre troisième. Lequel n'est pour la plus grande partie que simple hors-d'œuvre, offrant avec l'action même du roman la plus lointaine des connexités, mais que tout de même le lecteur, j'en suis convaincu, me sera gré d'avoir, comment dirais-je bien, ah oui, c'est cela, d'avoir intercalé. À juste titre baptisé par son auteur « Féerie néo-contemporaine », la pièce dont on donnait ce soir-là la première représentation aux folles ivresses avait attiré ce qu'on est justement convenu d'appeler le « tout Paris » dans la coquette bonbonnière de l'impasse Eugène Lintillac. Ce titre, « Le pauvre bougre et le bon génie », la notoriété de l'auteur dont c'était en quelque sorte le début au théâtre, l'éclat de l'interprétation, Mounet Sully, excusez du peu, obligeamment prêté par M. Clarissy, Frédéric Febvre, fichtre, ami intime de plusieurs monarques européens, oh, je ne cite pas Marie-Blanche Loison, dont la notoriété ne dépassait pas un petit cercle, plutôt Montmartrois, etc., etc., tout en un mot, faisait de cette soirée une de celles que compte dans une « season », ainsi que disent les Anglais. Le rare culot inhérent à Guillaume de la Renforcerie lui permit d'occuper un des meilleurs fauteuils de la coquette bourbonnière. Après un petit acte insignifiant et quelques chansons ineptes de chansonniers dégénérés, la toile se leva sur le prestigieux chef-d'œuvre de notre sympathique confrère. Loin d'être emprunté à quelques contes des mille et une nuits, comme prononce le docteur Mardrus ou tel autre du vieux Perrault, le pauvre bougre et le bon génie ne doit qu'à la vie réelle son saisissant intérêt. La scène en effet représente quoi? La forêt de Boisselian? Non. La grotte de la fée aux perles? Non. Alors une caverne toute scintillante de diamants, rubis ou autres gemmes? Non, vous dis-je, rien de tout cela. Mesdames et messieurs, la scène représente la terrasse d'un modeste café situé dans la rue peu passante d'un quartier éloigné. Chaises, guéridons, le tout en fer, jadis revêtu d'une couleur cherchant à donner la touchante illusion du pseudo-bois. Le voilà bien, le décor de la féerie néo-contemporaine. Le voilà bien. Derrière ce modeste matériel, une devanture de café portant cette enseigne que des esprits superficiels pourraient taxer de saugrenuité, mais que nous, qui nous y connaissons, jugeons étrangement belle, pour ne pas dire plus. Au rendez-vous des oasis. Sauf le bon génie relevant du rêve et du symbole, les personnages appartiennent à ce monde que nous sommes appelés à côtoyer chaque jour dans la rue, sur les boulevards, les ponts et autres artères vicinales. Un pauvre bougre, ou plutôt le pauvre bougre, et un garçon de café. Notez que ma prétention ne va pas jusqu'à pourvoir de majuscules ce personnage si complexe, si ondoyant, si disparate. Connaissez-vous rien de complexe, d'ondoyant et de disparate, comme le type garçon de café? Au lieu de perdre mon temps à vous décrire le caractère, la mentalité et l'état social de ces deux bons hommes, je vais les faire parler devant vous. À moins d'être d'irrémédiables gourdes, vous en saurez ainsi à la fin de ce chapitre, autant que le propre auteur de la pièce. Débutons, si vous voulez bien, par la scène première. Le garçon de café essuie à l'aide d'un torchon qu'on lui a sans exagérer remis au commencement de la semaine dernière les chaises et les guéridons ci-dessous énumérés. Et tout en se livrant à ce travail, il pousse des vocalises, ainsi que font les artistes lyriques soucieux d'entretenir la pureté de leurs diamants. Satisfait de lui, « c'était pas tant, remarque-t-il. Jamais je me suis senti en voix comme aujourd'hui. » Et il chante. « Ô Mathilde, idole de mon âme !» Quel organe, hein ? Précisément ce soir-là, M. Frédéric Febvre, qui tenait le rôle de garçon de café, se trouvait dans une admirable force vocale. Ainsi, chaque fois qu'il eut l'occasion de chanter, la salle enthousiaste ne lui ménageait-elle pas, dès le début jusqu'à la fin de la pièce, ses plus ardents bravos. Et tout ça pour servir des sales bocs à un tas de mufles qui vous collent dehors de pourboire. Et c'est ça qu'on appelle une destinée. Ah, malheur! Et il chante. Gloire immortelle de nos aïeux! J'en aurai un succès ce soir au grand opéra de Montélimar. Et si je dis Montélimar, c'est que dans la situation que j'occupe en ce moment, je n'ai pas le droit de faire mon malin. Et pourtant, avec cela, il fait le geste d'un homme qui en prend son parti. Enfin, quand je me ferai de la bile et de la bile, ça ne relèverait rien, n'est-ce pas? Alors, il sort en chantant du Paul Delmet. Qu'importe les trahisons, la scène ne reste pas longtemps vide. Comme la nature, le théâtre a horreur du vide. Et la scène deuxième montre le pauvre bougre. Il arrive là, oh combien, et vêtu d'un costume propre, mais puriforme au-delà de toute expression. Il se laisse choir sur une chaise. Inutile de rappeler, comme à l'entrée de M. Mounet sous le lit, dans le rôle du pauvre bougre, la coquette bonbonnière croule sous les applaudissements. Le propriétaire de l'immeuble qui se trouvait dans la salle n'emmenait pas, comme dit le vulgaire, large. De sa belle voix grave et bien timbrée, M. Mounet sur le lit commença. « Oh, certes, j'ai mes défauts, et je ne me donne pas comme le plus parfait qu'un autre, mais il y a une chose qu'on ne peut pas me retirer, c'est que j'ai bigrement soif. Oh oui, j'ai soif. Au cours de ma longue carrière, si fertile pourtant, pépite de toutes sortes, je crois bien n'avoir jamais éprouvé une soif pareille à celle que j'éprouve en ce moment. » Il tire de sa poche une pièce de 10 centimes, au moyen de laquelle il heurte la table. « Garçon, il n'y a rien qui vous altère comme de monter tous ces escaliers, si ce n'est pourtant de les descendre. » Il refrappe. « Garçon, en mettant bout à bout tous les escaliers que j'ai montés et descendus, depuis quelque temps, je pourrais seulement escalader l'Olympe. » Il s'interrompt. « Tiens, un verre !» Et il déclame affectation. « Je pourrais sûrement escalader l'Olympe. »« Oh, c'est pas un très beau verre, mais c'est un verre. » Il frappe de nouveau plus fort sur le guéridon. « Garçon !» Oh, si ce garçon tente encore d'avenir, il ne trouvera pas à ma place qu'un cadavre desséché. Le garçon, finalement, apparaît. Et le dialogue s'engage entre le pauvre bougre et lui sur un ton semi-badin, semi-sérieux, comme il convient aux gens fériques, mélange de foi naïve et de léger scepticisme. « Ah, vous voilà, mon ami, ben, soit dit sans reproche, ce n'est pas trop tôt. »« Ah, c'est vous, mon pauvre monsieur. Eh bien, comment que ça va aujourd'hui ?»« Ouf, ouf. « Avez-vous fini par trouver une place ?»« Pas la moindre, hélas. Tous les commerçants que j'ai vus m'ont dit de repasser. »« Ils vous prennent pour une blanchisseuse ?» Il rit bêtement. « Vous trouvez ça drôle, vous ?» Il hausse les épaules. « Bon, ma foi, non, mais il faut bien rire. Alors, une absinthe, comme d'habitude ?»« Non, pas d'absinthe encore. » J'ai trop soif. Boire de l'absinthe quand on a soif, mon ami, c'est en français le créateur. Ah ? Oui, la bière suffit à cet usage. Alors, un bock ? Oui, un simple bock. Blonde, brune ? Blonde. Mais se ravisant brusquement, non, brune. Le garçon sort en chantant. Oh, dans la brune et la blonde, son cœur balancé vagabonde. Resté seul, le pauvre bougre fait un retour sur lui-même. C'est pourtant vrai ce que chante cet imbécile. Entre la brune et la blonde, mon cœur n'a pas cessé de vagabonder. Il y eut des blondes pour lesquelles j'aurais lâché toutes les brunes du globe. Et j'ai connu des blondes, des brunes à qui j'aurais sacrifié mon existence entière. Le tout sans préjudice de certaines jeunes dames châtains et de rousses jouvencelles. Comme c'est loin, tout ça. Le boc demandé. Le pauvre bougre saisit le boc et le vide d'un seul trait. Puis à la grande stupéfaction du garçon. « Cette bière n'est pas buvable, » grimace-t-il douloureusement. « Mais que serait-ce donc si elle l'était ?» Question qui vaut au garçon cette réponse si fière en sa simplicité. J'en demanderais. Oh, ça, la bière, c'est pas d'autre fort ici, dit l'autre d'un air détaché dont il n'aurait pas fallu que son patron eût connaissance. Un silence. Alors, mon pauvre monsieur, toujours sur le pavé? Toujours hélas, oui, mes petites économies qui commencent à s'épuiser. Il compte son argent. Il me reste 1,45 francs pour finir l'année. Oui, c'est plutôt maigre. 1,45 franc. Ce fonds de réserve qui semblerait suffisant à certaines sociétés financières, oh, que je ne veux pas désigner plus clairement, est bien minime pour un homme seul, enfin. Espérons et oublions. Oui, oublions. Et maintenant, donnez-moi une absinthe, mon ami. L'absinthe, c'est l'oubli. L'absinthe, c'est l'évasion céleste, ce bagne terrestre qu'est la vie. Oui, peut-être bien. Quelquefois, vous voyez un homme dans le ruisseau, vous dites, c'est un homme sous l'eau, c'est un évadé. Mais les sergents de ville le fourrent au poste pour lui apprendre à se sauver une autre fois. Pure votre absinthe? Non, avec de la nisette. Et le garçon, selon l'habitude que vous avez déjà dû remarquer, sort en chantant. Enfant, c'est moi qui ai la nisette de Béranger. Habitude qui commence d'ailleurs à taper sur le système nerveux du pauvre bougre, car cet homme, grommelle-t-il, est d'une gaieté indécente. Il me fait cruellement sentir qu'il en a une, lui, de place. Et combien charmante en fonction, verseur d'oubli. Le garçon, selon la même habitude qui préside à ses sorties, rentre en chantant, mais cette fois sur un air de cantique, empreint d'un rare mysticisme. C'est l'heure sainte de l'absinthe. Mais vous êtes gai, mon ami. Moi, gai, oh, fichu, non. Je suis pas gai. Mais vous chantez tout le temps. Mais c'est pas une raison qu'on soit gai parce qu'on chante. Cependant, oui, c'est bien, à première vue, ça paraît drôle, mais la vérité, c'est que je chante parce que je suis chanteur. Chanteur? Bien sûr que je suis chanteur. J'ai l'air comme ça d'être garçon de café comme les autres, mais pas du tout. Tel que vous me voyez, se redressant. Je suis artiste lyrique. Artiste lyrique, étrange combinaison. Ah, mon pauvre monsieur, c'est une bien triste histoire. Et si vous aviez une minute... Une minute, il me demande si j'ai une minute. Mais j'en ai 100, j'en ai 1000 des minutes. Je n'ai que ça. Allez, contez-moi votre histoire, mon ami. Vous commencez déjà à m'intéresser. Bien voici, et vous allez voir qu'il n'y a pas que vous de malheureux sur la terre. Oui, la société est mal faite. Ah, qu'il dites-vous? Enfin, tâchons de nous faire une raison. Ben, imaginez-vous qu'il y a quelques années, je venais de débuter dans un petit restaurant près de l'Opéra Comique. L'ancien, là, vous savez. Oui. Celui qui a déjà brûlé. Oui, si c'est bon. Alors, un beau jour, voilà des messieurs des messieurs bien, hein, des journalistes, qui se mettent à découvrir que j'ai une voix superbe. Mais là, là, superbe. Mes compliments. Et tout le monde me prédit que j'arriverai à l'opéra. Peste. Alors qu'est-ce que je fais? Oh, je fais ni une ni deux. Je prends des leçons de chant et peu de temps après, me voilà qui débute dans un petit théâtre de province. C'était le pied à l'étrier. Ah ben oui, j'avais pas plus tôt débuté que voilà que je perds ma voix. Oh, pas de chance. Oh, vous pouvez le dire, mon pauvre monsieur, vous pouvez le dire. Le garçon de café, désignant sa gorge, imite le pénible manège des personnes aphones. Pas plus de voix que sur la main. Oh, c'était gai. Oh, c'était gai. Et alors? Mais alors quoi? Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai fait ni une ni deux. J'ai repris mon tablier de garçon de café. Mais cette profession en vaut bien une autre. Vous trouvez, vous, moi pas. Mais laissez-moi continuer. Il n'y avait pas 8 jours que je servais des bocs et des mazagrans. Que voilà ma voix qui revient, aussi belle qu'auparavant. Ça vous épate? Oh non, rien ne m'épate. Et quand je vois mon organe revenu, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais ni une ni deux. Je plaque mon tablier, voilà que je retrouve un engagement. Et alors? Ben le reste, vous pouvez le deviner. Dites tout de même. Alors, voilà que je repère ma voix. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Je fais ni une ni deux. Voilà que je me revais bistrot. Et à partir de ce moment-là, ça a toujours été la même chose. Ah, une voix superbe pour servir des bocs, et nib quand il faut que je chante Guillaume Tell. La situation n'est pas dénuée d'un certain piquant. Oh, dont je me penserai bien. Savez-vous ce que vous devriez faire? Dites. Mais vous devriez faire ni une ni deux, comme vous dites, et vous faire engager dans un café-concert. Mais chanter mon répertoire en servant des consommations. Mais c'est ça qui ferait un numéro original. Bon, tout idée, peut-être pas si bête que ça. J'y songerai. Un nuage assombrit soudain la face pâle du pauvre bougre. Hélas, gémit-il, moi je n'ai même pas cette ressource. Je ne suis ni chanteur ni garçon de café. Je suis comptable, oui, comptable en disponibilité, par retrait d'emploi. Entre pauvres gens, on compatit volontiers. Le garçon de café s'efforce de consoler le pauvre bougre et surtout à l'encourager. Ne vous en allez pas, mon bon monsieur. Je suis sûr que vous trouverez une place, une bonne place, juste au moment où vous y attendrez le moins. J'en accepte l'augure, car ma passion est à bout, mais... toutes ces démarches, toutes ces humiliations. Profond soupir du garçon. Ah, les humiliations. Je connais ça, moi. Le pauvre bougre rectifia, philosophe. Oh, les humiliations, à vrai dire. C'est encore ce qui me coûte le moins, car depuis le temps, je me suis fait un front qui ne sait plus rougir. Ici, le garçon de café se livre à un des genres de plaisanterie que je réprouve le plus, celui qui consiste à plaisanter autrui sur le démodé, le défraîchi et autres déchéances de ses hardes. Également à blâmer les réflexions ironiques portant sur le nom qu'on porte, le ridicule qui s'attache à certains de vos parents, ou encore vos tares ou infériorités physiques et principalement et par-dessus tout votre nationalité. Voyageant à l'étranger, que quelqu'un vienne à vous dire « Vous êtes un cochon !» Il arrive souvent, si vous êtes le plus raisonnable que lui, qu'à vous faire hausser les épaules, mais qu'il ait la mauvaise inspiration de préciser « Vous êtes un cochon de français !» Ah, malheur ! Qu'est-ce qu'il prend pour son rhume ? Pas à l'étranger. Pardon de cette petite digression que j'avais sur le cœur, et revenons à nos sympathiques personnages. Le pauvre bougre, si j'ai bonne mémoire, venait de déclarer « Je me suis fait un front qui ne sait plus rougir ». Ironique, le garçon remarque « C'est votre chapeau qui rougit pour vous ». Loin de se froisser de cette observation, le pauvre bougre enlève son couvre-chef, le contemple, le lustre par un restant d'habitude, puis le remettant sur sa tête, ben, « Le fait, confirme-t-il, que mon galurin tourne à l'écarlate. » Le garçon de café, sans le moindre tact, hélas, crut devoir insister. « Par contre, votre redingote devient d'un joli vert, très joli. » Le pauvre bougre demeure un instant silencieux, puis il s'exclame. Les voilà bien, les mystères de la nature, les voilà bien. Qui expliquera jamais pourquoi le temps, étrange teinturier, s'amuse à pousser les vieux chapeaux rouges, cependant qu'il verdit les antiques redingotes noires? Il rapproche son chapeau de la manche de sa redingote, en compare les nuances et constate « Eh bien, le vert de ma redingote fait admirablement valoir le rouge de mon chapeau. Mais réciproquement, ainsi rapproché, ma redingote paraît plus verte et mon couvre-chef plus rouge. » Le garçon de café, sans sourire peut-être, pourquoi pas, sérieusement « Oui, cela n'est même pas vilain, en clignant un peu les yeux. » Possible, mais je préférais néanmoins un costume moins polychrome. Un profond sourire. Hélas, quand pourrais-je m'offrir un complet neuf de la belle jardinière? C'est pas de l'ambition de votre part. Je n'ai jamais été ambitieux. Tenez-moi avec 100 sous par jour, j'aurais été le plus heureux des hommes. Mais 100 sous par jour, c'est pas le Pérou. Oh, je m'en serais largement contenté. Mais où est-il le bon génie qui m'assurait 100 sous par jour? Point de suspension. Cette ligne de point figure l'extase subite dans laquelle tombe le pauvre bougre, le garçon de café, aux accents d'une musique, de cette musique si douce, suprahumaine, harmonie produite par un de ces petits harmoniums, spécialité de la maison Mutel, et qui sont classés dans la sous-catégorie de l'étiquette de Sélésia. Machinalement, et comme par suggestion d'en haut, le pauvre bougre enlève son chapeau et joint les mains. Le garçon de café l'imite, sauf ce détail qui, se trouvant tête nue, il n'a pas à se découvrir. Dans la salle, un spectateur partage l'émoi des deux personnages. Guillaume de la Renforcerie a ce nom. Le bon génie comprend que l'instant est venu où Marie-Blanche Loison va reparaître à ses yeux éblouis. Il défaille presque. Marie-Blanche Loison, n'est-ce pas plutôt qu'il rêve? Il n'ose pas croire à la réalité tangible de la minute actuelle. Et lui aussi joint les mains. Zim, un coup de cymbale à l'orchestre, le coup de cymbale qui, selon la vieille tradition théâtresque, accompagne les apparitions en scène d'êtres surnaturels. Et c'est du blond, de rose, que voici s'épanouir. Un ange. Et c'est Marie-Blanche Loison. Le souci de la vérité qui doit tout primer nous contraint à déclarer que le costume porté par Marie-Blanche Loison en cette mémorable circonstance rappelait beaucoup plus celui des traditionnels commères de revue que la tenue d'un bon génie, enfin du moins telle que les esprits bien intentionnés se plaisent à l'imaginer. Mais qu'importe, c'est tout de même un ange blond, blanc et rose. Et de cet ensemble sort une voix. Une voix blonde, blanche et rose. Et cette voix, dans un diapason qui aurait gagné à être un rien moins élevé, proclame Un bon génie, mais qui parle de bon génie? Présent? Le pauvre bougre n'en croit pas ses yeux. Mettez-vous à sa place, ni ses oreilles. Quoi? S'écria-t-il, vous seriez un bon génie, oui? Qu'y a-t-il d'étonnant en cela? Oh, rien, ou plutôt si. Oh, l'aventure n'est pas banale, fiche-toi. Mais c'est toi qui m'as appelé, pauvre bougre. Oui, oui, c'est moi. Mais tu as bien fait, pauvre bougre, car je suis de ceux qu'on n'invoque jamais en vain. Qu'y a-t-il pour ton service? Bien, tout à l'heure, je disais à monsieur, il désigne le garçon, qu'avec 100 sous par jour, je serais le plus heureux des hommes. Le bon génie éclata de rire. 100 sous par jour, oh, pauvre bougre, on ne peut pas t'accuser d'avoir la folie des richesses. Je te disais tout à l'heure, monsieur, ne jamais été ambitieux. Alors, 100 sous par jour, cela te suffirait? Oh, largement, bon génie, largement. Eh bien, sois heureux, pauvre bougre, tu vas être exaucé. Il fallait voir à ce moment la mimique de monsieur Mounet Sully, qui remplissait le rôle du pauvre bougre. Oh, l'air exalté dont il clama. Vrai, vous pouvez faire ça pour moi? Mais oui, grand bonheur, rien n'est plus simple. Seulement, comme j'ai autre chose à faire qu'à t'apporter chaque matin une... Comment dites-vous, simple mortel? Une quoi? Mais le garçon a deviné. Une thune. C'est bien cela, une thune. Comme j'ai autre chose à faire qu'à t'apporter une thune chaque matin, je vais te remettre tout ton compte en bloc. À ce moment-là aussi, M. Mounet Sully fut bien beau d'ahurissement. En bloc, tout mon compte en bloc. Et ce geste d'amonceler des tas d'or sur le guéridon. M. Frédéric Febvre, qui figurait le garçon, eut également sa part de succès lorsque, imitant le geste de l'autre, en bloc, s'écria-t-il vénard, mais je vous le disais bien, moi, ça ne tarderait pas de venir bon pour vous. Après un silence, le pauvre bougre se décida à balbutier une question qui visiblement lui brûlait les lèvres. Et dites-moi, bon génie, quand allez-vous me verser la petite somme? Comme tu es pressé, pauvre bougre. Il me faut le temps de faire ton compte. Attends-moi un instant. Je ne fais qu'aller et venir. Et le bon génie sort au son de la même musique céleste. Alors le garçon et le pauvre bougre devisent sur ce peu banal coup de fortune. Vous pouvez vous vanter d'en avoir une de veine. Vous cherchez une place et vous trouvez quoi, la richesse? Oh, la richesse, 100 sous par jour. Vous avez été bête de ne pas demander davantage. Mais pouvais-je me douter? Mais qu'est-ce que vous allez vous faire de tout cet argent-là? Bien, je vais commencer par m'acheter un chapeau moins rouge et une redingote moins verte. Ça me changera un peu. À votre place, moi j'achèterai un chapeau vert et une redingote rouge. Ça vous changerait encore plus. Le pauvre bougre haussa les épaules. Non, j'en ferai rien, mon ami. Apprenez que le gentleman, je parle du vrai gentleman, doit éviter avant tout d'arborer dans son costume des couleurs voyantes. Vous allez faire la noce, hein? Le pauvre bougre haussa de nouvelles épaules. La noce! La grande vie, ohé, ohé, entretenir des danseuses. Tout ça avec 100 sous par jour. Mais vous êtes fou, mon pauvre garçon. Mais il y a danseuses et danseuses. Ah, si, tenez, j'en connais une, moi, au Moulin de la Galette. Mais le pauvre bougre ne prête aucune attention aux grivoiseries de son interlocuteur. Son esprit est loin. Le pauvre bougre regrette. Mais c'est vrai que j'ai été bête. J'aurais dû demander 1 louis par jour. Parce que ça lui coûte à ce bon génie. Ah oui, on peut dire, vous avez été bête. Frappé d'une idée subite. Mais j'y pense. Puisque vous allez toucher toute votre galette en bloc, il fait le geste d'un moncelet d'étain d'or. Qu'est-ce qui vous empêche de la placer en viager au lieu de vivre bêtement sur le capital? Le pauvre bougre est pauvre mais honnête. Cette proposition révolte sa délicatesse. Bon, je sais pas si ça serait bien correct. J'ai droit à 100 sous, j'ai pas droit à 6 francs. Oui, ce scrupule vous fait honneur, mais à votre place, je ne le repartagerai pas. Cet argent que vous allez toucher, il est à vous. Vous avez bien le droit, dans un chien, d'en faire ce que bon vous semble. Ou alors la propriété n'est qu'un vain mot. L'argument est en effet des plus plausibles. Le pauvre bougre hésite. Ben, j'y songerai, se gratte-t-il la tête d'une main perplexe. Ou bien encore, acheter un café-concert. Vous pousseriez la romance en servant des cerises à l'eau-de-vie. Ah, la romance, il chante. Quand nous en serons autant des cerises. Chut! On entend les accents de la musique céleste. Machinalement, le pauvre bouc se découvre ainsi qu'il avait fait à la première apparition. Ben, voici revenir mon céleste bienfaiteur. Inquiet. Mais où a-t-il mis mon argent? Il n'a pas l'air de ployer sous le fait. Mais parbleu, il vous apporte la somme en billets de banque. Ou en chèque, peut-être. Plus délicieuse que jamais, Marie-Blanche Loison. Oh, pardon, le bon génie apparaît. Rebonjour, pauvre bougre. Tu t'es pas trop ennuyé pendant mon absence? Non, pas trop. Je causais avec monsieur. Je faisais des projets d'avenir. Mais oui, bon génie, je ne suis pas encore fixé. Marie-Blanche Loison tenta, mais vainement, d'exprimer à son visage l'expression imperceptiblement ironique qu'ont à certains moments les êtres supraterrestres, même hélas, les meilleurs génies. Marie-Blanche Loison aura peut-être un jour beaucoup de talent, mais j'ai grand-peur que le sens de l'ironie lui fasse à tout jamais défaut. Ah, tu n'es pas encore fixé, pauvre bougre. Eh bien, tu vas l'être à l'instant. Voilà ton compte. Mon compte? Oui, ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le pauvre bougre avait en effet de quoi s'effarer grandement, car la somme que le bon génie lui mettait dans la main consistait bien modestement en 7 francs 50 centimes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, pauvre bougre, c'est ton compte. Et Mounassuli eut, après avoir entendu ces mots, une tête que n'eût pas désavouée, dans ses meilleurs jours, monsieur Germain. Pas monsieur Auguste Germain, notre sympathique confrère et dramaturge à succès. Non, non, pas davantage, monsieur Germain, le financier bien connu. Ni aucun de ces Germains dont foisonnent le tout Paris et les trois volumes du Bottin. Non, non, non. Mounet Sully, la tête de monsieur Germain, l'irrésistible comique du théâtre du Palais-Royal. Ce fut donc en applaudissements frénétiques que tout le public sélect de la coquette bonbonnière des Folies Ivresses éclata. Mon compte, 7 francs 50, mais pardon, bon génie, vous m'aviez dit, il me semble, que vous me remettiez tout ça en bloc. Il fait le geste d'amonceler un tas d'or. Mais la somme que je te remets, là, pauvre bougre, représente ton compte exact, en bloc, comme tu dis si bien. L'infortuné, c'est le cas ou jamais d'employer cette expression, l'infortuné s'obstine à ne pas vouloir comprendre. Voyons, voyons, bon génie. Parlons peu, mais parlons bien. 7 francs 50, ça peut pas être mon compte total. Vous badinez, bon génie. Vous me montez en bateau. Dites-moi que vous me montez en bateau. Dites-le-moi, bon génie. Sache, pauvre bougre, que les bons génies ne montent jamais de bateau. Mais alors, Et là, le simiesque de M. Germain, du théâtre du Palais Royal, fit place à tout le tragique, intense et fatal dont si souvent nous donna des preuves, notamment dans le rôle d'Édipe, M. Mounet Sully, du théâtre national de la Comédie-Française. Mais alors, frémit-il, si je sais compter, et je sais compter puisque je suis comptable de profession, je n'aurai plus qu'un jour à vivre. Hélas, pauvre bougre, mon pouvoir ne va pas jusqu'à prolonger ton existence. Je le regrette. Pas tant que moi. Encore un jour et demi à vivre. Oui, autrement dit, 36 heures. C'est pas gras. Tâche de te faire une raison, pauvre bougre. 36 heures. Mais soudain, changement à vue dans l'attitude et la physionomie du pauvre bougre. Disparut tout le tragique, intense et fatal de ce raseur d'Édipe. Avez-vous jamais vu quelqu'un prendre gaiement son parti d'une aventure éminemment regrettable? Chapeau jeté en l'air, jambes prestement passées à la môme crevette par-dessus le guéridon. Et allez donc, c'est pas mon père, une raison. Vous me dites de me faire une raison. Ah là là, mais elle est toute faite, la raison. J'en ai vu bien d'autres, et que désormais ma devise soit courte et bonne. À nous les danseuses du Moulin Rouge, du Moulin de la Galette, et puis généralement de tous les moulins. Fort amusé, le bon génie et le garçon de café contemplaient cette scène. Le pauvre bougre s'écria. Et pour commencer, garçon, un pernod.
Avec de l'anisette?
Non, pur. Oh, mais un pernod pur. À cet endroit, la féerie reprenait ses droits. Accompagnée par le célestat de la maison mutuelle et de sa plus belle voix, le garçon entonne, sur l'air si connu de Faust, du regretté Gounod, Pernod pur, Pernod radieux, porte son âme au sein des cieux, emporte-le sur tes deux ailes vers les absinthes éternelles. Tous reprenant, Pernod pur, Pernod radieux, porte son âme au sein des cieux. Feu de Bengale, apothéose, rideau. Bravo, rappel, l'assistance se retire diversement impressionnée. Un spectateur dit, oh, c'est une de ces pièces qui font mieux qu'amuser, elle donne à réfléchir. Et un autre spectateur, colonel d'artillerie en retraite, murmure, l'auteur de cette pièce se serait payé notre tête, que cela ne m'étonnerait pas autrement.